Market View, une émission présentée par Laurent Leprévost, directeur général d'Angéris.
Amis de la pierre et du cash flow, bonjour, ravi de vous retrouver. Ce matin, nous recevons une personnalité de la vie du bail. Et oui, il existe la vie du bail, il y a le cycle de vie, il y a la vie du bail. Je suis très heureux de recevoir Jérôme Justin, président fondateur d'une société qui s'appelle Ival. Et effectivement, il le vaut bien. Jérôme, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre société qui a à peu près 10 ans d'âge et comme le Chivas, plus ça prend de l'âge et meilleur c'est. Donc voilà, quelle est la finalité de votre société et quelle est votre démarche ?
Alors, avant la finalité, on a, nous, une vocation atypique sur le marché immobilier, c'est d'essayer de le rééquilibrer en faveur des preneurs, puisque dans mon parcours professionnel, moi, j'ai pu observer que ce marché et la financiarisation du marché immobilier, en fait, la plupart des propriétaires d'immeubles, de bureaux, maintenant, sont institutionnels et raisonnent justement en cash flow, etc., en oubliant parfois le locataire, qui est en fait une contrepartie, qui sert à signer des baux, à justement améliorer les cash flows, vendre les immeubles chers, etc. Et j'ai trouvé que, effectivement, le locataire, de son côté, il avait lu des problématiques qu'il avait du mal à résoudre, de flexibilité dans le bail, d'essayer de pouvoir restituer des surfaces quand il avait une baisse d'activité, de pouvoir bouger au-delà du 3-6-9 et que le 3-6-9 était quand même très pénalisant, pour ne pas dire le 6-9 assez fréquemment, etc. Et qu'on lui refacturait les impôts fonciers, toutes les taxes en tout genre, les ravalements, etc., qui étaient pour moi plutôt des charges à assumer par le propriétaire. Donc du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allé petit à petit voir les entreprises en disant que je pense qu'on pouvait aussi faire différemment. Donc ça, c'est la vocation, c'est d'essayer d'aider les entreprises avec notre expertise du bail commercial. Et donc nos activités, effectivement, on est expert de la vie du bail, donc on intervient à tous les moments en amont sur des phases d'études de stay-or-go, etc., d'audit de baux. Ensuite, on obtient des leviers économiques, juridiques ou techniques pour proposer aux entreprises qui sont nos clients des améliorations. Et donc, on a démarré avec une vision surtout financière de l'immobilier, parce que c'était 2010, après Lehman Brothers. Et donc, les sociétés faisaient des économies sur tout ce qu'elles pouvaient, en se disant, l'immobilier, de toute façon, on a bien besoin de bureaux, on est bien obligé de loger nos collaborateurs, on ne peut pas faire grand-chose, en face, c'est tel ou tel bailleur qui, de toute façon, ne nous recevra même pas. Et donc, on leur a montré petit à petit que oui, il y avait quelque chose à faire et des pistes d'optimisation.
Alors, en fait, votre voix, elle est quand même assez rare sur le marché, il faut le dire, parce que on a quand même l'habitude d'une sorte d'auto-glorification des acteurs qui investissent, et il en faut. Mais c'est vrai que là, vous avez choisi votre camp, hein, c'est clair. Voilà, vous défendez les locataires contre les bailleurs. Alors, la situation fait qu'ils sont aujourd'hui institutionnels. Alors, comment le Robin des Bois, là, se positionne dans la forêt immobilière de Sherwood ?
Et nous, effectivement, on a pris le parti de travailler uniquement pour les locataires et donc jamais pour les propriétaires, puisque en fait, une partie de notre activité, c'est effectivement de la négociation et même sur les recherches de locaux. Il y a un grand intérêt quand même, et en tout cas nos clients le voient, à travailler avec une société qui travaille uniquement pour elle, puisqu'en fait, c'est vraiment une délégation du projet immobilier. Et puis assez souvent, de toute façon, on leur montre des choses que même en interne n'avaient pas vues par manque d'expertise ou par manque de temps. Ou alors les preneurs aussi cèdent pas eux-mêmes, parfois, je le dis, parce que souvent un projet immobilier, alors on pourra discuter de est-ce que c'est stratégique ou pas. Moi, ce que je vois depuis 10 ans, c'est que l'immobilier est quand même, c'est un poste de dépense important, mais en réalité, c'est pas perçu comme stratégique pour moi dans l'entreprise, puisque je l'ai vu, on achète une société, on a un nouveau marché, etc., et puis on s'occupe de sa stratégie d'entreprise, et puis finalement, on se rend compte que, ah mince, par contre, l'immeuble est trop petit, comment on fait ? C'est un peu la dernière roue du carrosse. Et donc, nous, on les aide à essayer d'anticiper ça et à adapter en permanence l'immobilier à leur activité, à leur niveau d'activité.
Alors justement, est-ce que c'est pas un problème ? Parce que quand vous dites que pour nombre d'utilisateurs, essentiellement des PME on va dire, mais pas que, comment ces entreprises-là peuvent considérer que c'est pas stratégique alors qu'on est en plein dans le télétravail, le trajet domicile-travail, l'organisation au sein même de l'entreprise, la flexibilité, les tiers-lieux, enfin j'en passe, et des pires ou des meilleurs. meilleur selon le point de vue. Quel est votre regard là-dessus? Parce que finalement, vous évangélisez un peu les masses, là. Vous devez leur expliquer en quoi un immobilier, finalement, est ou n'est pas stratégique dans leur,
oui,
dans leur vie.
Oui, en fait, c'est un poste de dépense important, mais ce que je disais, c'était ce que j'avais observé depuis 10 ans, effectivement, que c'était quand même un peu ce à quoi on pensait en dernier, après d'abord un projet stratégique de déploiement, etc. Et effectivement, ça s'est complexifié. J'ai plus le même discours aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est devenu plus intéressant encore. Et à l'heure où on parle beaucoup de l'entreprise à mission, de l'entreprise citoyenne et de l'entreprise à responsable, RSE, etc.
Impact.
En fait, oui, on se rend compte que le impact, exactement, c'est ce que je cherchais, merci. On se rend compte que, en fait, l'immobilier est devenu stratégique, puisqu'en fait, il n'y a pas un dirigeant que je rencontre qui ne m'explique pas que pendant les entretiens de recrutement, une des questions qui arrive en premier, c'est « et en télétravail, comment vous êtes ?» Certains m'expliquent qu'ils perdent des candidats parce que leur politique de télétravail, etc. Donc, l'attractivité, notamment sur pas mal de métiers de cadre, on sait qu'on est en sous-emploi. Ça fait partie de l'attractivité de l'entreprise. Et je pense que maintenant, tout le monde devrait travailler en ce moment sur la raison d'être du bureau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la raison d'être de l'entreprise. En fait, pourquoi va-t-on au bureau et la raison d'être du bureau, c'est un vrai sujet du moment. Et du coup, évidemment, ça a un impact sur l'immobilier parce que ça définit les besoins en mètres carrés et donc ça définit les budgets, etc. Et on voit bien qu'un projet immobilier avant était mené soit par la direction financière, soit par la direction immobilière. Et maintenant, il y a beaucoup plus de parties prenantes parce que ça fait partie pour moi de l'ADN. C'est une manière de montrer qui on est en tant qu'entreprise. Sa politique immobilière, c'est aussi la manière de dire comment on manage. Est-ce qu'on fait confiance, très beaucoup confiance, pas beaucoup confiance, etc.
Et est-ce qu'on ne prend pas le sujet par le mauvais bout? C'est-à-dire que généralement, là, les clients qui font appel à vous sur des questions de négociation, de transfert, de déménagement, de réorganisation de leurs locaux, est-ce que déjà le premier problème, ce n'est pas un problème managérial? C'est-à-dire que l'entreprise doit déjà définir en quelque sorte les buts de guerre, l'organisation de son entreprise, plutôt que de commencer par la fin, c'est-à-dire trouvez-moi des locaux, mais sans avoir réglé le problème du télétravail, des conventions, comment les salariés s'organisent, comment sont-ils implantés, etc. Quel est votre avis sur
ouais, ça, je le voyais beaucoup en début de carrière, effectivement, on disait « bonjour, cherchez-moi 1000 mètres carrés, oui, mais quel est votre besoin ?»« Je ne sais pas trop, mais j'ai 700, je suis en croissance, allez, trouvez-moi 1000. » Ça, on ne le voit plus trop, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de ça. Vous savez, Laurent, on a beaucoup parlé du fameux 50% d'un poste de travail d'un cadre qui est inoccupé en permanence. C'est-à-dire qu'un cadre, il est en réunion, chez des clients, etc. Et moi, j'étais étonné que ce chiffre de 50%, à peu près, n'était pas... Enfin, les entreprises ne s'en préoccupaient pas. Parce que c'était peut-être pas suffisant non plus pour... Et encore une fois, on revient sur le côté stratégique ou non de la dépense immobilière. Mais là, avec le télétravail, en fait, c'est même plus 50%. C'est nettement moins. Je ne sais pas si les différents... statisticiens ont sorti des chiffres là-dessus, mais c'est beaucoup moins maintenant. Et donc je vois que les entreprises s'en préoccupent maintenant. Et pas forcément en le prenant sur le plan, par le côté financier de la chose, mais en se disant, c'est du gaspillage, et notamment aussi sur la partie RSE, etc. On va pas louer un immeuble. Et en fait, là où c'est compliqué, où je vous posais cette question, mais c'est compliqué parce qu'on accompagne une société qui avait 2 sites à Paris pour environ 2000 collaborateurs. Et en fait, juste avant le Covid, ils nous missionnent pour rassembler ces 2 sites en un seul. Pendant le Covid, ils nous disent non, finalement, on va en résilier un et puis on va aller dans des espaces de coworking, on va en garder un en 3-6-9 et on va prendre un espace de coworking en flexibilité. Et là, ils sont en train de rendre cet espace de coworking et finalement de réaménager un des 2 sites en bail commercial classique pour absorber finalement, avec leur politique de télétravail, l'ensemble de leurs collaborateurs. Mais ça se fait petit à petit. Et ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup de réflexions. Et puis, on a les instances de représentation du personnel qui sont dans la boucle. Et je vous dis, comme il y a une gouvernance des projets immobiliers maintenant qui est beaucoup plus large et complexe qu'avant, ça prend un peu de temps. Puis, on n'est pas encore malheureusement sorti complètement non plus de la crise sanitaire.
Donc là, ce que vous évoquez, c'est la nécessité de l'agilité en permanence. En fait, on est dans des mondes qui sont quand même assez incertains. Comment cette agilité peut se traduire? Vous avez évoqué les investisseurs institutionnels qui, pendant très longtemps, même s'ils en trouvent un petit peu la voie de beaux précaires, ils étaient quand même à la recherche de beaux longs. Donc, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la financiarisation de l'immobilier pour ces acteurs qui reposent sur des beaux longs et la sécurisation des revenus et les entreprises qui sont en recherche d'agilité permanente? Comment on fait pour résoudre la quadrature du cercle?
C'est vrai que nous, on voyait des négociations avec des propriétaires institutionnels qui refusaient des baux dérogatoires, qui préféraient laisser leur immeuble libre que de le remplir au moins une partie du temps, etc. Ce que les clients ne comprenaient pas, ce que les preneurs ne comprenaient pas d'ailleurs. Mais bon, dans cette logique financière, il valait mieux garder un immeuble vide avec un loyer potentiel très élevé que de le louer un peu moins cher ou sur de la moindre durée. Ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a un un essor assez considérable des espaces de coworking, qui sont ceux qui viennent donner de la flexibilité aux entreprises qui en veulent et qui n'arrivaient pas à l'obtenir directement auprès des bailleurs. Donc ils signent des beaux commerciaux avec les institutionnels, donc ils arrivent à peu près à rentrer dans les cases, même s'il y a des modèles un peu disruptifs qui arrivent à prendre des baux dérogatoires pour faire des espaces de coworking, etc. Mais eux désintermédient finalement le marché et proposent aux sociétés, notamment, nous on est membre de Croissance Plus avec beaucoup de sociétés de croissance, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui poste sur le réseau qu'on a, qui a un sujet de bureau à sous-louer, de manque de place, etc. Et donc aujourd'hui, grâce aux espaces de coworking qui ont quand même pris une place considérable sur le marché, on peut avoir cette possibilité.
En un mot, comment qualifieriez-vous aujourd'hui la relation bailleur-locataire? Elle est toujours très tendue, elle est apaisée, elle est en voie d'apaisement, c'est le feu, comment vous la qualifiez?
Je pense qu'elle est en voie d'apaisement, ouais. Je pense que les bailleurs en fait, sont plus à l'écoute forcément maintenant, parce que prendre un risque aujourd'hui de mécontenter son locataire, de le voir partir, je pense que c'est quand même un vrai risque aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même des bailleurs qui ont les moyens de prendre ces risques-là, qui ont une logique financière et qui préfèrent les prendre. Mais on sent quand même des bailleurs beaucoup plus à l'écoute. Alors, je parle de bailleurs bureaux. Le commerce, c'est encore un sujet particulier avec, là, c'est vrai, des propriétaires que moi, personnellement, je ne comprends pas, qui ont quand même des positions souvent très fermes et très dures à l'encontre des locataires, sans être dans une logique d'aller accompagner plus ou moins. On ne leur demande pas d'accompagner. Ça reste, pour nous, le propriétaire est un fournisseur, est un prestataire. Et nous, en tant que client, eh bien, on cherche à obtenir les meilleures conditions. Ce n'est pas un partenariat, mais néanmoins, il y a des choses qu'on peut faire ensemble dans des périodes de crise, notamment.
Alors, dernière question pour Ival. Mais les deux se confondent. Jérôme Justin se confond avec Ival et Ival avec Jérôme Justin. Qu'est-ce que vous allez mettre en place là, dans les prochaines semaines? Quel est le nouveau produit? Parce que vous êtes parti de la négociation du bail. Là, les choses évoluent. Vous disiez à l'instant que voilà, vous avez également changé d'analyse. Qu'est-ce que vous allez proposer prochainement?
Alors, j'ai un scoop pour vous, Laurent, justement, ce matin. On ouvre effectivement un département Workplace Consulting chez Ival, puisqu'on est expert jusque-là, ça fait 10 ans qu'on a développé une expertise sur le coût du mètre carré, sur le bail commercial, sur la relation bailleur-preneur, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Les projets se sont complexifiés, comme je vous le disais. Il faut accompagner aussi les entreprises sur cet aspect dimensionnement des projets mètre carré. Parce que négocier un bon loyer au mètre carré, c'est bien, mais avoir une assiette de mètre carré qui est quand même la plus optimale, c'est encore mieux. Et donc, on pourra parler à l'occasion d'une prochaine invitation, j'espère, de la valeur d'un mètre carré, de l'aspect environnemental, etc., qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ce matin. Mais tout ça, ce sont des sujets qui importent aux grands utilisateurs aujourd'hui.
Jérôme, c'est déjà fini, on pourrait parler des heures, parce que c'est vraiment des sujets qui touchent les investisseurs, mais pas seulement, hein, c'est la relation aussi des particuliers par rapport à leur vie de famille, leur vie professionnelle, l'équilibre entre les deux. Merci infiniment, Jérôme.
Merci beaucoup, Laurent.
Et bon retour dans la forêt de Sherwood. Et bonne journée à tous. Merci.
Merci.
Market View, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.